ثلاث مسال et ça, ça fait partie du ministère itinérant. On découvre chaque jour de nouveaux endroits, de nouveaux pupitres. Voilà, je suppose que j'ai reçu une invitation indirecte à vous révéler depuis combien d'années nous sommes mariés, parce que je ne suis pas marié tout seul, bien entendu. Ah, écoutez, je vais vous le dire, depuis bientôt 27 ans, donc c'est, il y a encore du chemin à faire. Voilà, nous avons 4 enfants qui se situent entre bientôt 25 ans et le dernier qui va vers ses 17 ans, 3 filles et un garçon. Je n'en dis pas plus. Nous allons lire, en tout cas au moins deux passages. Le premier dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Nous en lisons les versets 17 à 22. Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous passons dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, nous allons lire au chapitre 2, le verset 10, et les versets 17 et 18, Hébreux 2, 10, et 17 et 18, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. 17-18, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et enfin, toujours dans cette lettre, un dernier texte, au chapitre 5, les versets 7 à 10, Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le dernier texte que nous venons de lire est un texte troublant. Je ne sais pas s'il vous trouble, si vous remarquez là où se situe le problème, mais c'est un texte qui, à première lecture, contient un gros problème. Puisqu'il nous est dit, au verset 8, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Déjà, au chapitre 2, vous aviez un texte qui était troublant de la même manière, au verset 10. Il est question d'être élevé à la perfection par les souffrances, et cette élévation est celle de Jésus-Christ, le prince de notre salut. Jésus-Christ était-il, oui ou non, parfait tout au long de son existence terrestre? On pourrait en douter. Parce que, habituellement, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il apprend l'obéissance, cela signifie qu'il passe d'une obéissance imparfaite à une obéissance un peu plus parfaite et ainsi de suite. Il progresse. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est élevé à la perfection, cela veut dire qu'il passe progressivement d'un stade d'imperfection à un stade de perfection. Et vous savez que certaines sectes qui se servent de la Bible, utilisent ces textes pour parler de l'infériorité du Fils par rapport au Père. Alors il nous faut essayer, dans un premier temps, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le Christ a appris l'obéissance. Serait-il donc passé de la désobéissance à l'obéissance? Essayons de réfléchir un petit peu avec beaucoup de précaution, beaucoup de sobriété à ce qui se passait avant l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu était dans le ciel. Eh bien, nous savons par les Écritures que de toute éternité, le Fils était un avec le Père, il était égal au Père, et volontairement soumis au Père. Il en sera de même d'ailleurs dans l'éternité future, puisque dans 1 Corinthiens 15, 28, il nous est dit que dans l'éternité future, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Égalité parfaite, dans cette équipe mystérieuse que nous appelons la Trinité, mais dans laquelle il y a aussi des relations particulières, ce qu'on appelle des relations de subordination. Le Fils étant subordonné au Père, le Saint-Esprit étant subordonné au Fils et au Père, et les trois travaillant harmonieusement ensemble. En venant sur la terre parmi les hommes, Christ est entré dans un tout nouveau champ d'expérience. L'incarnation était quelque chose de nouveau pour le Fils. Jésus-Christ a accepté une condition humaine. Il a accepté de nous ressembler en toutes choses, sauf en ce qui concerne le péché. Et bien entendu, il a accepté d'une manière toute particulière et volontairement, par amour et pour le Père et pour l'humanité, il a accepté d'être soumis, entièrement soumis à la volonté du Père sur la terre. Le Fils de Dieu a accepté de s'enfermer dans ce que nous pourrions appeler la prison du temps et de l'espace. Lui qui vivait en dehors du temps et dans un espace sans limite, a accepté de s'enfermer dans cette prison-là. Nous ne pouvons pas imaginer ce que cela peut signifier que de devoir aussi se soumettre au temps qui passe, de savoir qu'il faut un certain temps pour aller de Nazareth à Jérusalem, être soumise aux aléas de la vie, alors que on a vécu, comme on dit chez nous, plus libre que l'air dans cette divinité absolue. C'est quelque chose de très particulier. Et quand Jésus était sur la terre, nous pourrions considérer que devant lui, et c'est une image, il y avait comme un grand escalier, un escalier avec des centaines et des centaines de marches. Et là-haut, très haut, très loin encore, au bout de l'escalier, il y avait la marche suprême. Cette marche qui précédait la croix. Et Jésus devait monter en quelque sorte cet escalier. Et chaque marche d'escalier représenter une nouvelle exigence d'obéissance au Père. Et vous savez que le ministère de Jésus, c'est une succession de situations où le Père attendait du Fils une obéissance absolue, une obéissance d'amour. Et on voit au fur et à mesure du ministère de Jésus, la situation devenir pour lui de plus en plus difficile. La pression de l'ennemi s'accroître. Plus on approche de la croix, plus l'ennemi se dresse parce qu'il sait que bientôt sa défaite sera absolument consommée par le sacrifice suprême du Fils de Dieu. Alors chaque escalier, chaque marche représente une nouvelle situation, de nouvelles tentations, de nouvelles difficultés, toutes sortes de situations que le Fils de Dieu n'avait jamais connues dans le ciel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a su grimper ce long escalier pénible, passant d'une tentation à l'autre, d'une situation d'épreuve à l'autre, d'une situation d'obéissance à l'autre, de manière parfaite. Il a hissé son obéissance, qui était parfaite à chaque degré, mais il l'a hissé toujours plus haut, à un nouveau degré de difficulté. À tous les échelons, l'obéissance du Fils était parfaite. Mais il y avait une perfection suprême de l'obéissance, c'était celle de la croix. À chaque difficulté, le Seigneur Jésus était obéissant parfaitement. Mais chaque difficulté étant supérieure à la difficulté précédente, hissait un peu plus haut le niveau de perfection dans l'obéissance du Fils de Dieu. Oh, nous pourrions prendre un autre exemple qui nous aiderait à comprendre. Imaginez un sauteur à la perche qui serait devant la barre, se situant à 5,50 m de hauteur, il l'a franchi du premier coup. La barre ne tremble même pas. On fait passer la barre à 5,60 m, il la passe du premier coup. La barre ne tremble pas. On la fait passer à 5,70 m, il la saute du premier coup. Et ainsi de suite, il monte de plus en plus haut. La difficulté devient de plus en plus grande, les exigences physiques deviennent de plus en plus élevées. À chaque degré, l'athlète franchit la barre à la perfection, mais il monte de perfection en perfection jusqu'à la perfection suprême. Bien sûr, pour un sauteur, nous ne savons pas quand elle pourrait être atteinte sur la terre. Et c'est là que s'arrête l'image. Voilà ce que le rédacteur inspiré de l'Épître aux Hébreux a voulu nous enseigner. Cette maturité de Christ, à chaque étape, à chaque nouveau test, dans ce champ inconnu de la souffrance humaine, chaque étape a été franchie avec succès. Jésus-Christ a ainsi appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Si le Fils de Dieu a appris l'obéissance sans jamais avoir connu, lui, la désobéissance, en passant par l'école de la souffrance, comment pourrions-nous connaître l'obéissance dans nos vies, nous qui sommes enclins à la désobéissance, en nous passant de l'école de la souffrance? Nous sommes appelés à marcher sur les traces de Christ. Et nous aussi, nous sommes appelés à apprendre l'obéissance par l'école de la souffrance. Dieu poursuit un objectif de perfectionnement de l'obéissance en nous. Et pour cela, il se sert de tests variés. Pour nous apprendre, à vous et à moi, à être de plus en plus dépendants de lui, à vivre selon la volonté de Dieu, comme dit 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 3, pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas. À partir de cette petite base doctrinale, nous procédons exactement comme nous l'avons fait vendredi soir. Une base doctrinale, un socle doctrinal clair, sur lequel nous greffons des illustrations de la Bible qui nous conduisent ensuite à une actualisation pour voir comment le message biblique s'applique à nos vies personnelles. L'exemple que nous prenons, nous en avons lu le texte dans Exode au chapitre 13, et dans les versets 17 à 22. Et nous allons donc nous pencher sur l'éducation du peuple d'Israël durant la première année du désert. Je relis le début du texte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu fit faire un détour. Il y a ce petit mot, cette petite conjonction du début du verset 18, « mais ». Et ce « mais », c'est un « mais » qui est resté à quelque part en travers de la gorge du peuple d'Israël. Nous avons l'avantage d'avoir tout le récit. Nous avons l'avantage d'avoir les raisons de ce « mais ». En ce qui concerne le peuple d'Israël, il n'en était pas là, lui ne savait rien de tout cela. Et nous pouvons imaginer les raisonnements, les révoltes intérieures, les questions qui se sont élevées, les murmures qui se sont élevées au sein du peuple d'Israël. Pensez donc, voilà des centaines de milliers de personnes qui attendaient depuis plus de 4 siècles l'accomplissement des promesses faites jadis à leur père Abraham. Ils attendaient l'accomplissement de ces promesses qui avaient été répétées et répétées encore, qui avaient été précisées au fil des siècles. Ils avaient vécu une situation devenant de plus en plus difficile en terre égyptienne. Et puis voilà qu'enfin pointé au proche horizon le moment où ils allaient pouvoir s'installer dans le pays où coule le lait et le miel. Ils étaient donc la génération qui verrait enfin s'accomplir cette merveilleuse promesse de l'Éternel qui faisait rêver un bon nombre d'entre eux. Et je peux imaginer, alors qu'ils étaient en train de s'ébranler, de quitter l'Égypte, je peux les imaginer, chacun dans sa famille, qui avance sur le chemin vers le désert, qui monte peu à peu en direction du pays promis, et je les imagine qui discutent entre eux. L'épouse et l'époux, s'ils vivaient en 1997, qui sont en train déjà de discuter des plans de la maison. Quel nombre de pièces on aura, comment on les orientera, ce qu'on mettra à l'intérieur, la beauté des ornements, etc., n'est-ce pas? On dresse des plans, on vit déjà dedans, on serre les enfants dans ses bras, en leur disant, oh, vous savez, mes petits chéris, bientôt nous serons chez nous. Et puis, subitement, on commence à écarquiller les yeux. Et on se dit, mais est-ce que notre grand chef Moïse aurait des problèmes de santé? Est-ce qu'il déraillerait quelque peu du cerveau? Depuis quand est-ce que l'on descend vers Montréal en allant à Chicoutimi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'imagine les premiers syndicalistes d'Israël qui se précipitent chez Moïse, qui déplient leur grande carte de la région et qui disent à Moïse, dis Moïse, tu sais lire une carte? Ça fait des siècles qu'on attend. On a même calculé le nombre de jours qu'il faudrait pour arriver. On a même ajouté un bout de plus pour ne pas être déçu si on n'arrive pas tout à fait dans les temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de nous faire aller vers le sud quand il faut monter vers le nord? Ça ne vous est jamais arrivé de tenir un tel langage avec Dieu? De dire, mais c'est pas logique. Tu ne sais pas lire les cartes, ô bon Dieu. Tu as besoin de prendre des leçons. Tu ne sais pas utiliser une boussole. Ça ne vous est jamais arrivé. D'interroger Dieu parce que vous avez des projets, Vous avez une vision. Et puis vous avez l'impression que tout se fait à l'envers. Que toute votre belle logique spirituelle, Dieu semble ne vraiment pas vouloir la respecter. Parce que, Moïse, qu'a-t-il répondu? Il leur a dit, oh, vous savez, vous n'avez pas besoin d'essayer de m'apprendre à lire une carte. Tout d'abord, je suis beaucoup plus âgé que vous. J'ai passé 40 ans dans le désert à garder les troupeaux. J'ai de l'expérience dans ce domaine. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Regardez là-haut. Regardez là où il y a une indication, il y a une nuée. Dieu se manifeste. Et je suis obligé simplement de suivre la nuée, les indications de Dieu. Je ne dois pas simplement regarder les cartes humaines, aussi logiques soient-elles, je dois suivre la carte du ciel. Vous aimez faire des détours? Moi, je n'aime pas faire des détours. Surtout quand je suis attendu pour une conférence. Ah, quand la voiture dans laquelle je suis subitement voit un panneau qui indique la nécessité de faire un détour, je me demande combien de temps cela va prendre. Parce qu'alors, vous avez des détours. Votre route va par là, vous partez sur la droite, et puis subitement, vous revenez en arrière. Vous avez l'impression de vous éloigner de plus en plus et vous faites des kilomètres et au bout d'un certain temps, enfin, vous vous retrouvez sur la bonne route. Nous n'aimons pas les détours. Surtout notre génération d'aujourd'hui. Il faut que ça aille vite. Telle n'est pas la mentalité de Dieu. Il est des détours qui s'appellent précisément, nous l'avons vu vendredi soir, circonstances difficiles de toutes sortes. Autant de freins en apparence dans notre cheminement avec le Seigneur. Oh, nous aimerions que ça aille tellement plus vite. Quelqu'un me le disait encore, oh, que c'est dur. C'est dur dans certains domaines. On aimerait que dans certains domaines, on soit délivré comme ça. Hein. Un petit claquement de doigts et Dieu devrait intervenir. Et Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Alors, nous sommes bénis de Dieu puisque dans ce texte, nous avons au verset 17 une première raison immédiate du détour. Dieu ne conduisit point le peuple par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ah oui. Il y a peut-être quelque chose que les Israélites voulaient totalement ignorer. C'est que le long de la côte, dans la bande de Gaza aujourd'hui, il se serait heurté à une armée qui, à cette époque, était ultra-moderne à côté de la nôtre. Une armée fortement en avance sur toutes les armées de cette époque, équipée des meilleurs tanks, les plus modernes qui soient, des chars de fer à l'époque. Et puis, ces Israélites voulaient peut-être ignorer que dans cette région, il y avait des hommes qui étaient spécialement solides et forts, les ancêtres d'un certain Goliath de Gath. Dieu savait tout ça. Dieu savait ce qui était devant. Et en réalité, c'est l'immaturité d'Israël, incapable de supporter le choc avec les Philistins, qui était la raison première de ce détour. C'est-à-dire, en réalité, une marque de l'amour de Dieu, de la sollicitude de Dieu. Et il y en a d'autres, d'ailleurs, des marques qui interviendront plus tard. Si vous allez voir, par exemple, dans Exode 23, versets 29 et 30, pour ne prendre qu'un texte, Exode 23, versets 29 et 30, Dieu dit, « Je ne chasserai point les Héviens, les Cananéens, les Hétiens, ces sept peuplades qui occupaient la terre promise au moment où Israël arrivait. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » C'est intéressant de voir tout ce que Dieu a organisé de manière à ce que la conquête de la terre promise puisse se faire dans de bonnes conditions. Nous avons ici un premier enseignement. Les petites souffrances, des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles. Quand Dieu nous fait faire un détour, quand Dieu nous ralentit dans notre progression, souvenons-nous toujours de sa pédagogie à l'endroit de son peuple Israël. C'est par amour que Dieu permet ces détours qui nous apparaissent tellement inutiles. L'amour de Dieu qui dose et qui contrôle nos circonstances, nos situations difficiles. Il y a dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans le prophète Ésaïe, une magnifique parabole qui va dans ce sens. Elle se situe dans Ésaïe au chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 28, c'est la parabole du cultivateur. Parabole du cultivateur, Ésaïe 28, verset 23. Tout d'abord, versets 23 et 24, une parabole faite d'un équilibre absolument extraordinaire. Versets 23, 24 d'abord. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Vous remarquez que le rédacteur de la part de Dieu dit pratiquement quatre fois la même chose. Quatre paroles très très proches l'une de l'autre. Écoutez, 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 écoutez. Et là aussi, cela appartient au style hébreu. Ou quand on veut mettre en évidence une parole qui a beaucoup d'importance, on la répète, souvent par groupe de deux, effectivement, pour enfoncer le clou, tout comme Jésus, dans le Nouveau Testament, à diverses reprises, quand il veut insister sur une grande vérité, dira « en vérité, amen, amen ». Ça, c'est la manière de l'auteur dans l'Ancien Testament. Verset 24. « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ?» Premier enseignement de cette parabole. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Et je le dis notamment pour ceux et celles d'entre vous qui avaient entendu l'étude de vendredi soir et qui en partant se sont dit mais si je dois connaître cette succession de difficultés terribles qu'a connu David pendant pratiquement une douzaine d'années de sa vie, franchement c'est quand même pas très encourageant de connaître dans ma vie un salut, qui me fasse passer par un chemin si difficile. Non, Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Il existe dans la vie dans l'agriculture un cycle. Labourage, ensemencement, croissance, récolte, battage, foulage, repos, et on recommence. Il n'y a donc pas que l'épreuve dans la vie du disciple de Christ. D'ailleurs, plus loin, au verset 28, il est dit « On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. » Quel équilibre divin. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Dans sa bonté, Dieu sait que là où il y a un salut qui se dresse sur notre route et dont il se sert pour nous former, il y a aussi un Jonathan. Autant la haine de Saül était forte à l'endroit de David, autant l'amour de Jonathan était passionné et pur pour le même David. Et quand Dieu, dans sa souveraineté, en a décidé que la souffrance devait s'achever avec la mort de Saül, Jonathan n'était plus nécessaire. Et vous le savez, Jonathan lui aussi disparaît de l'histoire. Ainsi en est-il avec notre Dieu. Je pense à ce croyant qui voyageait en train à destination d'une ville lointaine, à l'époque où les trains n'étaient pas encore équipés d'électricité. Et la voie ferrée empruntait plusieurs tunnels. Et il avait en face de lui, ce chrétien, quelqu'un qui, manifestement, n'avait pas l'habitude de voyager en train. Et lorsque le train est entré subitement dans un tunnel, le croyant s'est dit, mais mon ami avec lequel je viens de discuter doit être dans une peur effroyable, plongé subitement dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il va penser? Alors, avec de grandes précautions, il s'adresse à lui dans l'obscurité pour lui faire passer un message. Il lui dit, écoutez monsieur, j'aimerais vous rassurer. Vous êtes certainement inquiet, mais réjouissez-vous, nous ne sommes pas dans un sac. Il y a un trou de l'autre côté. Nous allons sortir de là. Nous ne sommes pas dans un sac. Et c'est vrai qu'il y a des moments où quand nous traversons certains tunnels, nous avons l'impression qu'ils n'en finissent pas. Ils n'en finissent pas. Et l'ennemi susurre à notre oreille, tu n'en sortiras jamais. Tu n'en sortiras jamais. Non, cher bien-aimé, je vous le dis ce soir, il y a un trou à l'autre bout du sac. Un auteur français a écrit ceci, ne te détourne pas par lâcheté du désespoir, traverse-le. C'est par delà qu'il sied de retrouver motif d'espérance. Va droit, passe outre. De l'autre côté du tunnel, tu retrouveras la lumière. Mais ici, il faut quand même un certain réalisme. Parce que certains, quand ils retrouvent la lumière, sont libres de la lumière retrouvée. Et vit comme un alcool fort dont ils ont été privés. Et ils boivent de cet alcool fort, bouillant, au point qu'ils oublient un enseignement essentiel que quelqu'un a exprimé de cette manière en disant « Le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, mais le réaliste voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel et le prochain tunnel. »
Parce que précisément, nous sommes engagés dans un cycle. Et que nous devons savoir quand nous buvons de tout notre cœur et goulement cette lumière retrouvée en même temps. Nous devons rester dans une vigilance paisible parce que nous sommes toujours dans formation. Et qu'après ces temps délicieux, dans la lumière retrouvée où nous buvons l'oxygène du ciel à l'entrée, il y aura un nouveau tunnel. Et qu'il arrive même parfois que ce nouveau tunnel soit en réalité très proche du tunnel que nous venons de quitter. Oui, Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Deuxième leçon de cette parabole, versets 25 à 28. N'est-ce pas après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nigelle et somme du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Quel est l'enseignement essentiel ici? Sinon que Dieu sait parfaitement faire la différence entre nous. Nous ne sommes pas tous de la même céréale. Chacun d'entre nous est une graine différente. Et Dieu respecte des règles. Nous avons une place marquée dans le plan de Dieu. Nous avons une place marquée dans la stratégie de Dieu. Et parce que Dieu connaît la céréale que nous sommes, parce que cette céréale entre dans un plan précis, qui est un plan parfait, un plan de sainteté et d'amour parfait, il choisit soigneusement le traitement, l'épreuve, le parcours pour chacun de nous. Il n'y a chez notre Dieu ni arbitraire ni désordre. Les épreuves, les tests sont soigneusement mesurés. Dieu n'est pas Nebuchadnezzar. Dieu n'est pas le despote de Ninive. Dieu n'a rien à voir avec je ne sais quel Hitler, quel Torquemada, quel Shah d'Iran ou je ne sais quoi. Non. Dieu respecte notre personnalité à chacun. Dieu est d'une grande délicatesse. Même lorsque sa main s'appesantit sur nous. Dieu respecte notre personnalité, il ne l'écrase pas, tout en la purifiant. Dieu nous éprouve en fonction de sa connaissance parfaite de notre personne et des objectifs qu'il a fixés pour nous. Et pour moi, ça m'encourage beaucoup. Je ne regarde pas le chemin par lequel les autres passent, en ayant peur de devoir emprunter exactement le même chemin. Je regarde à celui qui a prévu un chemin unique au monde pour moi, en fonction de sa connaissance parfaite et de la place qu'il m'assigne dans son champ. Oh, que Dieu est bon d'avoir prévu pour chacun d'entre nous un chemin qui est à la mesure de son amour, d'avoir prévu pour chacun d'entre nous un chemin qui est à la mesure de son amour pour nous, même lorsqu'il emprunte ces vallées des larmes que nous appréhendons parfois terriblement. Et puis il y a une troisième leçon essentielle qui apparaît dans l'ensemble de la parabole et qui m'indique là aussi que Dieu n'est pas un tortionnaire, que Dieu n'est pas une sorte de Dieu sadique qui aime voir souffrir ses enfants. Dieu laboure, certes,
Et le labourage a quelque chose de douloureux quand le soc sent le sol et le retourne. Mais Dieu laboure toujours avec l'objectif de semer et de récolter à son heure. C'est-à-dire que notre Dieu vise toujours la fécondité par la souffrance. Et dans les Lamentations de Jérémie, nous trouvons au chapitre 3, verset 33, ces mots apaisants: ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Et c'est pour cela que nous pouvons nous écrier avec le rédacteur inspiré de cette parabole du cultivateur, cette conclusion du verset 29, cela aussi vient de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, le Dieu absolument souverain, le Dieu dominateur universel, le dominateur du cosmos. Nous pouvons nous crier avec lui, admirable est son conseil et grandes sont ses ressources. Avant d'entrevoir rapidement une seconde raison du détour qui nous permettra d'arriver à notre conclusion, je vous livre le contenu d'une poésie qui va tellement dans le sens de notre réflexion ce soir juste ici. Écoutez. Dans une usine, on voit poulies et engrenages, courroies tendues ou non, manivelles, rouages, certains tournent très vite et d'autres lentement. Certains vont en arrière et d'autres en avant. Certains vont doucement et glissent en silence. D'autres, cognant, claquant, par saccades avancent, en une confusion, un chaos apparent. Mais ils font leur travail, levant, poussant, tirant. Du plus puissant levier au pignon le plus frêle, ces choses de concert font ce qu'on attend d'elles. Et un esprit commande à cette activité, une main la dirige avec dextérité. Ainsi, dans notre vie, s'agitent tant de choses. Certaines, semble-t-il, à notre bien s'opposent, paraissent nous freiner, faire notre malheur. Mais ensemble, elles visent notre plus grand bonheur. Tous nos vœux contrariés, les refus qui nous blessent, les contradictions qui nous troublent sans cesse, la force qui les hâte, les retarde et les tient, les pousse et les conduit, c'est la divine main. Nous avons vu la raison immédiate du détour. Mais il en est d'autres. Il en est une seconde étroitement en relation avec la première. C'est qu'Israël venait de vivre durant 4 siècles en Égypte. Et qu'en Égypte, ce peuple avait été en quelque sorte pendant longtemps abandonné à lui-même. Ce peuple était devenu terriblement indépendant, indiscipliné. Pas mal de ses membres étaient même devenus idolâtre, et s'était mise à adorer les idoles égyptiennes, selon ce que disent certains textes. Dieu va donc, dès la sortie d'Égypte, travailler à faire de son peuple un peuple obéissant, un peuple soumis, un peuple souple, un peuple maniable, disponible, ordonné, une armée équipée, capable de se battre et d'être victorieuse dans ses conquêtes. Et c'est ainsi que, pendant une année, la première année au désert, Dieu va travailler au brisement de l'esprit d'indépendance d'Israël, à cette volonté propre, caractéristique d'opiniâtreté de ce peuple longtemps livré à lui-même. Il va tester l'obéissance de son peuple par les épreuves du désert. Il est intéressant de voir dans les chapitres qui suivent celui qui nous intéresse de Exode au chapitre 15, par exemple. Exode 15, verset 23, après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Verset 23, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et vous remarquez la parabole du cultivateur dans son application ici dans ce texte, puisqu'après les eaux de Mara, après ces trois jours dans le désert pendant lesquels le peuple d'Israël ne trouve point d'eau et c'est le plan de Dieu, au verset 27, vient la sortie du tunnel, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau, après l'obscurité profonde et désespérante de la sécheresse. Voici que s'ouvre le ciel et que jaillit dans le désert la verdure des oasis et les sources généreuses. Ainsi en est-il dans notre vie. Chapitre 16, plus loin, verset 2, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je fais pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Et ainsi de suite, tout au long de cette première année de pérégrination dans le désert. Ainsi, le peuple d'Israël devait apprendre, par exemple, à suivre la nuée d'en haut sans rouspéter. Vous avez remarqué que dans Exode 13, il nous est dit, au verset 20, 21 et 22, que l'Éternel allait devant eux, verset 21, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Eh bien, il y a un autre texte qu'il nous faut lire, même si sa lecture est quelque peu désagréable pour ceux qui aiment des textes bien construits. Il s'agit du texte de Nombre au chapitre 9, dans les versets 15 à 23. Et si vous craignez certaines turbulences, vous attachez vos ceintures et nous allons lire ce texte difficile ensemble. Je prends donc Nombre 9, verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel.
Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. 0, 2 fois 0, 3 fois 0 pour le français. Ah, un prof de français, hein? Dans la marge, il mettrait répétitions inutiles, phrases lourdes à reconstruire. Ah, mais vous savez, la Bible n'est pas seulement un livre pour les lettrés. Si Dieu doit massacrer une langue dans son style et dans sa structure pour bien faire comprendre un message, il le fait. Et Dieu a voulu nous enseigner par ce texte la nécessité de nous laisser conduire par le Saint-Esprit sur la base des Écritures. Laissez-vous conduire continuellement par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Et ça, c'est pas facile. Nous l'avons vu tout à l'heure au niveau du détour. Le Saint-Esprit poussait dans une direction. Et le peuple disait, Seigneur, tu n'es pas logique. Et combien de fois nous l'avons dit, n'est-ce pas, avons-nous de tels raisonnements? Pendant une année, Israël a dû apprendre la fidélité de Dieu, la sécurité que l'on trouve auprès de lui, l'amour inlassable dont il fait preuve, sa puissance, sa sagesse, sa sainteté radicale, la beauté de sa gloire dans ses multiples interventions pour développer la dépendance de la foi. Que de problèmes nous avons avec notre esprit d'indépendance. Et puis, le détour menait tout droit vers le Sinaï. Et le Sinaï, c'était précisément la révélation de la pensée de Dieu, des desseins de Dieu, de la parole de Dieu. C'était donc un peu l'école biblique, l'importance de s'attacher à la parole de Dieu, de s'en imprégner. Tout le message qui tournait autour du tabernacle, avec tous ses enseignements, sur la gravité du péché, l'unique porte du salut, l'autel des sacrifices, la nécessité de la pureté constante, d'une communion étroite avec ses frères et sœurs, tous ces enseignements moraux, sociaux, spirituels. Tout cela, il fallait l'apprendre. Vous savez, notre génération d'aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, elle a tellement hâte d'être dans le territoire promis qu'hélas, elle fait l'économie du Sinaï. C'est-à-dire qu'on voudrait que Dieu bénisse, on voudrait connaître dans sa vie le pays où coule le lait, le miel. Et on ne veut pas lire les Écritures. On ne veut pas s'asseoir dans la présence de Dieu pour voir les traits de feu de Dieu, graver la parole de Dieu, non pas sur des tables de pierre, mais sur les tables de fer de nos cœurs. On se contente d'être un petit disciple de Christ, un petit peu en amateur, en dilettante, en vacancier. On se contente de quelques beaux textes qui nous donnent du cholestérol ou du diabète, parce que ce ne sont que des textes sucrés ou très gras que nous consommons. Psaume 23, 1 Corinthiens 13, Jean chapitre 10, et j'en passe, et des meilleurs. Comme si Dieu ne nous avait donné que quelques chapitres qui suffisent à notre équilibre diététique. Non. Le Sinaï, c'était toute la parole de Dieu. Ce n'était pas 3 commandements sur 10, c'était 10 commandements sur 10. Ce que Dieu veut aussi nous dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de raccourci dans la marche avec le Seigneur. On ne peut pas faire l'économie de certains détours. Notamment ces détours qui nous conduisent dans les sentiers profonds de la recherche de Dieu dans sa parole. Je pense à ce candidat au ministère qui voulait se former trop rapidement dans une école biblique et qui va voir le directeur et qui lui dit, écoutez, ce que je ne pourrais pas faire, les études qui prennent habituellement 3 ans, ce que je ne pourrais pas les faire en 2 ans, voire en 1 an. Et à sa grande surprise, le directeur de lui dire, mais oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait les faire en 1 ou 2 ans. Mais voyez-vous, tout dépend de ce que vous voulez devenir. Et vous savez, quand Dieu veut faire un chêne, il y met 100 ans. Quand Dieu veut faire une courge ou une gourde, très peu de temps lui suffit, éventuellement quelques mois. Alors, est-ce que vous voulez être une courge, une gourde, est-ce que vous voulez être un chêne? Dieu nous pose la question ce soir. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Dieu rallonge plutôt le chemin pour nous apprendre la patience. Alors ma
conclusion
sera pour dire tout d'abord ceci. Dieu ne voit pas les choses du même regard que nous. Il sait de quoi nous sommes faits et il sait de quoi demain sera fait. Lui connaît les obstacles qui sont sur notre route. Certains détours, certaines attentes éprouvantes, certains contretemps sont nécessaires, même si nous ne les comprenons pas aujourd'hui. Et si nous prenions le temps, mais nous ne le ferons pas, je vous aurais raconté quelques histoires des contretemps par lesquels Dieu m'a fait passer et qui m'ont fait verser bien des larmes. Et quand je vois maintenant avec le recul, combien je bénis Dieu d'avoir été si sage avec moi. Oh oui, c'était dur.
Dieu.
Il me souvient d'une période terriblement difficile, où elle date de quelques années à peine, où, pratiquement une trentaine d'années avec Christ, puisque Christ m'a trouvé, m'a rencontré à l'âge de 11 ans, je vais en avoir 52. Après une trentaine d'années de marche avec Christ, je ne comprenais plus rien à la vie chrétienne. J'étais dans le ministère avec de grandes responsabilités nationales et je ne comprenais plus rien. Tout allait de travers. Toute ma logique spirituelle s'effondrait. Lutte au dehors, crainte au dedans. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends plus. Et je peux vous assurer que j'ai pleuré. Et puis, un jour, Dieu a eu vraiment pitié de moi. Et alors que j'étais en train de donner une série de conférences, un soir, à la sortie de la réunion, je saluais les croyants. Et il y avait parmi eux, dans cette église, une femme de prière, une personne dont je savais qu'elle priait très régulièrement pour moi, pour nous, pour notre famille. Et sans rien savoir, discrètement, cette vieille sœur m'a remis une enveloppe. Quand je suis rentré dans ma chambre ce soir-là, j'ai ouvert l'enveloppe. Et j'ai été bouleversé parce qu'il y avait la carte que voici. Mon père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Oh, mes amis. Cette carte, quand je suis rentré de ce voyage, je l'ai placée sur mon bureau.
en face de moi. Et dans cette tempête que nous traversions, dans la famille, dans le ministère, dans tous les domaines, continuellement, je disais, mon Père, je ne te comprends pas, mais je me confie en toi, je te fais confiance. Et puis, la situation s'apaisant quelque peu dans mon cœur,
il prend confiance.
J'appris qu'un ami passait par une vallée de terribles difficultés, et je pris donc cette carte, je la mis dans une enveloppe que je lui expédiais en me disant peut-être que cela l'encouragera dans son propre combat. Mais Dieu avait décidé que j'avais encore besoin de ce message, si bien que 2 ou 3 jours plus tard, arrive dans le courrier de la journée une enveloppe venant d'un tout autre canal, et dans cette enveloppe, il y avait la même carte. Alors j'ai remis la carte devant moi, comprenant qu'il fallait que je continue à apprendre la leçon. Et ce message est devenu très cher à mon cœur. Deuxième leçon de conclusion. Le chemin le plus court en apparence n'est pas toujours le meilleur dans le plan de Dieu. D'ailleurs, entre nous, quelle serait la définition la plus pratique d'un tunnel ? En réalité, un tunnel, c'est un raccourci. C'est un moyen d'éviter de contourner un obstacle. Les tunnels, c'est fait pour aller plus vite. Et le paradoxe, c'est précisément que nous n'aimons pas les tunnels, parce que nous perdons tous nos points de repère. Nous nous retrouvons dans l'obscurité. Et il arrive que dans certaines situations, nous réussissions à repousser certains tunnels de la main, et que nous préférions emprunter le petit sentier de montagne qui grimpe, qui tourne et qui tourne encore. Parce que parfois, nous voulons aussi aller plus lentement que Dieu. Il est des moments où nous voulons aller plus vite que Dieu, et il est d'autres moments où nous voulons aller plus lentement que Dieu. Dans mon premier livre, si les minutes m'étaient comptées, un chapitre est consacré à la vie du Seigneur Jésus dans l'heure du Père. Et nous examinons dans l'Évangile selon Jean comment tantôt l'entourage de Jésus le poussait à aller plus vite que la montre du Père, et comment à d'autres moments l'entourage de Jésus essayait de pousser Jésus à aller plus lentement que la montre du Père. Dieu veut que nous vivions simplement dans le temps du Père. Il y a 9 jours en France, pendant une série de réunions de fin de semaine, j'ai dû avancer ma montre d'une heure. Ensuite, jeudi soir, en arrivant à Montréal, j'ai dû reculer ma montre de 6 heures. Ça en faisait 7 de décalage avec la France. Et cette nuit passée, j'ai dû avancer ma montre d'une heure. Imaginez que je sois animé d'un de ces esprits d'indépendance et d'opiniâtreté qui dit « La seule heure qui est la bonne, c'est la mienne. » Eh bien, mes chers amis, j'aimerais vous dire ceci, c'est que je ne serai jamais arrivé au Québec. Parce que tout d'abord, j'aurais raté mon avion à Paris en négligeant de changer d'heure pour m'aligner sur l'heure française. Et admettant que je sois arrivé assez tôt à l'aéroport pour pouvoir quand même sauter dans l'avion, imaginez donc qu'une fois arrivé à Montréal, j'ai dit à mes amis, écoutez, moi, j'ai telle heure, votre heure ne m'intéresse pas.
Alors tout ce qui avait été organisé, aussi bien sur Montréal qu'ici, dans la région, vous imaginez un petit peu ? Je serais en train de prêcher dans le vide maintenant. Nous n'aurions que des rendez-vous ratés. Hein? Il y aurait toujours 6 ou 7 heures de décalage entre nous. Vous imaginez un petit peu ? Non. Je dois me soumettre à l'heure du pays dans lequel je suis. Ainsi en est-il dans ma relation avec Dieu. Le chemin le plus court, je le répète, en apparence n'est pas toujours le meilleur dans le plan de Dieu. Et il est même des tunnels très particuliers. En Suisse, qui est un pays de hautes montagnes, il existe de nombreux tunnels. Et il est des tunnels très spéciaux. Il y a par exemple un tunnel, quand vous entrez dedans, vous cheminez pendant très longtemps dans ce tunnel. Quand vous sortez du tunnel, vous regardez le paysage et vous vous grattez la tête en disant « Mais c'est bizarre. Je suis resté des minutes et des minutes, voire des dizaines de minutes dans ce tunnel. Quand je regarde le paysage n'a pas changé. Je regarde, je cherche, c'est exactement le même paysage. Alors je regarde d'encore plus près et subitement je comprends. C'est le même paysage. Mais quand je regarde certains points de repère, je me rends compte que je n'ai pas avancé dans le sens horizontal, mais que j'ai progressé en altitude. C'est-à-dire qu'il existe donc des tunnels qui montent un petit peu comme en colimaçon, n'est-ce pas ? On se hisse progressivement dans une longue courbe pour aboutir à une sorte d'étage supérieur dans la montagne. Ainsi en est-il dans notre marche avec Dieu ? Il est des tunnels qui ne sont pas faits pour nous aider à avancer dans ce sens-là, mais qui nous permettent d'élever notre âme, notre esprit, un peu plus près du Seigneur. Enfin, je termine. Troisième élément de conclusion. Certaines souffrances sont destinées à nous apprendre la marche dans l'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit indissociable de la parole de Dieu, et non à nos impulsions sentimentales ou rationnelles. Parce que nous sommes très tentés de fonctionner par nos impulsions ou par une raison indépendante de Dieu. Alors nous avons besoin d'apprendre par la souffrance cette dépendance et cette réserve qu'il faut avoir vis-à-vis de ce que nous ressentons. C'est un mauvais radar que le radar de l'affectivité dans notre marche avec Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par les sentiments, c'est marcher par la vue. Marcher par la foi, c'est marcher sur la base des Écritures. Marcher par la foi, c'était ce matin au lever, quand vous avez vu le ciel bas, gris, la pluie qui tombait après les belles journées passées, c'était de dire, mais Seigneur, tu n'as pas changé. Mon moral ne va pas être affecté par la disparition du soleil, le brouillard pesant, l'humidité, la grisaille. Parce que c'est vrai que nous sommes sensibles à ces choses, hein? Surtout quand l'hiver dure. Pouvoir se lever le matin et dire, Seigneur, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la nuit que j'ai passée, nuit peut-être difficile, nuit d'insomnie, nuit pendant laquelle j'ai pensé à tant de choses, nuit pendant laquelle j'ai dû m'occuper de l'enfant malade. Matinée au seuil d'une journée difficile où telle facture à payer m'attend, tel rendez-vous difficile m'attend, tel examen de passage m'attend. Mais où je peux dire, Seigneur, peu importe, mon point de repère, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas ce que je ressens. Ce qui compte, c'est de savoir que quels que soient mes sentiments, tu es là. Tu es vivant, tu es présent, tu es agissant par ta parole. Les circonstances changent, les sentiments fluctuent. Ta parole est éternelle, elle ne change pas.
Dans le désert, dans sa bonté, Dieu a permis qu'un signe de la foi dans la fidélité de Dieu accompagne le peuple d'Israël continuellement. C'était le sarcophage dans lequel reposait la momie de Joseph.
Continuellement, le peuple d'Israël pouvait regarder à ce cercueil qui se promenait dans le désert et se souvenir qu'ils avaient un père, Joseph, qui avait fait confiance au Seigneur et qui savait que Dieu serait fidèle à ses promesses et qu'un jour son corps se trouverait dans le pays promis, quels que soient les chemins qu'il emprunterait pour y parvenir.
Dieu est bon de nous donner ainsi des points de repère pour nous aider à persévérer dans cette obéissance, quel que soit le chemin à parcourir. Quand le grand inventeur Edison était jeune, un de ses amis s'étonna un jour de trouver la porte d'entrée de sa maison toujours très dure à ouvrir. Et cet ami de lui faire remarquer comment un inventeur tel que vous devrait avoir une porte facile à manier. Vous n'auriez pas beaucoup de peine pour trouver un système donnant plus de souplesse à votre porte. Et Edison, avec un grand sourire malicieux, de répondre, mais je sais très bien, cher ami, que ma porte est dure. Car chaque visiteur, donc vous, cher ami, quand il pousse ma porte, c'est en même temps monter par une combinaison de mon invention une certaine quantité d'eau dans la citerne qui est sur le toit. J'ai toujours assez de visiteurs pour n'avoir jamais besoin de pomper moi-même mon eau. Il est un plus grand inventeur qu'Edison, notre Dieu, qui place des résistances devant nous. Et souvenons-nous, face à ces résistances, que nos souffrances, ces formes de résistance, sont souvent, sans que nous en doutions, sans que nous le voyons, sont souvent les moyens que Dieu utilise pour préparer les bénédictions dont nous serons arrosés. Nos peines préparent, font monter l'eau de la bénédiction d'en haut dont nous serons arrosés. Écoutez simplement cette poésie qui sera l'illustration de la deuxième partie de notre étude. Dieu ne peut te laisser voir toujours ton chemin. Marcher, mais par la foi, tel est l'ordre divin. Dieu ne peut de ta route enlever Pierre. Tu lâcherais bientôt sa tendre main de père. Dieu ne peut t'épargner ni les pleurs, ni la croix, ni le joug qui t'oppresse et t'irrite parfois. Il faut jusque au fond boire la coupe amère. Il faut pour vivre au ciel passer par le calvaire. Il faut que la douleur nous guide pas à pas vers un but que sans elle nous ne poursuivrions. Souvent à la nacelle, il faut un vent d'orage pour que les matelots pointent droit au rivage. Souvent à la brebis, il faut prendre un agneau pour qu'elle entre au bercail avec tout le troupeau. Ainsi, dans son amour, Dieu permet la fournaise, il l'attise parfois plutôt qu'il ne l'apaise. Mais ce Dieu tout-puissant a dit que pour les siens, le feu ne brûlerait jamais que les liens. Ô Dieu qui te conduit, mets donc ta confiance. Chante,
si tu le peux, un hymne d'espérance. Peut-être, en l'écoutant, un cœur auprès de toi, triste, désespéré, retrouvera la foi. Qu'importe si ta voix hésite, pleure ou tremble, Dieu permet de pleurer et chanter tout ensemble. Nous voulons prier. Seigneur, comment pourrions-nous refuser de suivre un tel Dieu? Un Dieu d'une telle sagesse. Un Dieu si aimant. Un Dieu qui sait si bien mesurer les difficultés, même lorsque nous ne comprenons pas. Et c'est vrai qu'il est bien des difficultés dont nous n'aurons jamais la solution directe sur la terre, mais que nous pouvons accepter à cause de ton amour, à cause de ce que tu nous dis dans ta parole. Puisqu'il n'y a point de difficulté gratuite, arbitraire, Seigneur, ce soir, apaise nos craintes. Aide-nous à déposer nos amertumes à la croix. Tu connais nos eaux de marin qui ont besoin d'être assainies. Seigneur, visite-nous les uns et les autres. Merci de nous apprendre cette école de la dépendance, de l'obéissance. Merci de nous apprendre l'obéissance par les choses que nous souffrons. Merci pour celui qui nous a précédés sur ce chemin, lui le parfait, et qui est allé de perfection en perfection jusqu'à la perfection suprême, et qui peut comprendre nos combats. Il a été tenté lui-même en toutes choses sans jamais succomber. Il est capable de nous comprendre. Seigneur, merci de nous le rappeler face au ricanement de l'ennemi qui essaye de nous décourager, de nous enfoncer, de nous faire désespérer. Accompagne-nous ce soir les uns et les autres. Et merci de ce que tu sauras, toi, nous rappeler chaque fois que nécessaire. Ce que nous avons partagé ce soir, dans les tunnels que nous aurons à parcourir demain, nous nous souviendrons de la lumière d'aujourd'hui. Seigneur, sois-en béni, nous t'adorons, nous t'aimons, en Jésus-Christ. Amen.